À travers les propos de Madame Klein, nous avons bien compris que les langues et cultures de l'Antiquité ont toute leur place dans un enseignement par compétences. Mais précisément, dans le quotidien de l'enseignement de cette discipline, comment cela fonctionne-t-il? Quelles compétences, quelle transversalité, quel projet, quelle modalité de travail sont mises en œuvre par les professeurs? Pour répondre à ces questions, nous avons réuni autour de ce micro Thierry Bayard, Anne Burel et Richard Normandon, qui vont pouvoir témoigner des expériences menées dans leurs établissements respectifs. Alors, chers collègues, au moment de vous laisser la parole, je souhaiterais vous entendre parler de ces heures de cours qui vous font dire « Ah, c'était un bon projet !» Ces heures où l'on perçoit, d'abord en sourdine, puis de façon plus claire, que la petite machine de l'apprentissage n'est plus seulement mue par le professeur, mais également par d'autres. Quelques-uns, timides au début, et progressivement de plus en plus assurés, et nombreux, oui, quand les élèves se détachent des micro-tâches, exercices de grammaire, analyse étymologique microscopique, et qu'ils commencent à prendre en charge eux-mêmes un projet. Alors, on a l'impression d'avoir contribué à l'acquisition d'une certaine autonomie dans leur éducation, ce qui est l'une des priorités du socle commun de connaissances et de compétences. Si les langues et cultures anciennes n'apparaissent que très peu dans le détail du socle, elles sont en fait au cœur de celui-ci, car elles en épousent totalement l'esprit, faisant appel et ouvrant à de nombreuses compétences transversales. Cette transversalité ainsi que l'interdisciplinarité qu'elle induit, en voici quelques exemples. Écoutons d'abord l'expérience de Thierry Bayard en ce domaine.
Dans le cadre du cours de langues anciennes, nombreuses sont les occasions où il est possible de travailler la compétence 7 du socle, relative à l'autonomie et à l'initiative, qui est parfois jugée difficile à évaluer. On peut utiliser cette compétence comme un point d'appui, un levier, selon le mot d'Archimède, pour donner l'occasion aux élèves de développer d'autres compétences. À titre d'exemple, cette année, à l'issue d'une séquence portant sur la mort de César, j'ai emmené ma classe de 3e au CDI. La consigne était brève. Créer une une de journal datée du 15 mars 44 avant Jésus-Christ. Les élèves ont formé des groupes de 4 et sont entrés en conférence de rédaction. Qu'ai-je observé pendant ces séances au CDI? D'abord, que l'autonomie laissée au groupe permettait l'élaboration par les collégiens eux-mêmes d'un plan de travail négocié et rationnel. Les groupes s'organisaient plus ou moins rapidement, mais chacun a fini par trouver une place. Ensuite, que la volontaire sécheresse de la consigne conduisait les élèves à s'approprier la recherche, à retrouver une véritable curiosité, une véritable envie de savoir que les traditionnels exposés ne leur donnent pas toujours. Certains ont cherché des éclaircissements sur les rapports entre César et Brutus, d'autres se sont penchés sur l'intrigue géopolitico-sentimentale entre César et Cléopâtre. Les approches étaient diverses, et chacun a pu mettre à profit les compétences du cours et celles découvertes dans le fond du CDI. Enfin, un projet comme celui-ci demande aux élèves de remobiliser de nombreuses connaissances antérieures. L'expression de la date pour les Romains, la monnaie et sa valeur, autant de connaissances qui sont subitement devenues utiles pour les élèves. Dans ce travail, on a donc travaillé la compétence 7, l'exercice de l'autonomie et l'esprit d'initiative, pour travailler des compétences de langue française, puisqu'il s'agissait de rédiger des textes journalistiques ou encore de trouver un titre accrocheur, où le choix des mots et de leur position est primordial. Les élèves ont également pu acquérir des repères culturels et apprendre à s'organiser au sein d'un groupe. Un tel projet permet de donner réellement aux élèves la possibilité de prendre en main leur apprentissage et, pour certains, de redonner du sens à ce qu'ils font ordinairement en cours.
Pour mettre en place également ce type de projet avec mes classes, je suis totalement en accord avec toi. Je voudrais juste évoquer un point que tu ne développes pas assez dans ton, enfin, que tu ne développes pas d'ailleurs dans ton propos. En plus de travailler l'autonomie et l'initiative, il est possible d'utiliser ces travaux pour développer également la compétence 4, une pratique raisonnée des outils informatiques. Loin de cette représentation d'un autre âge selon laquelle le latin et le grec n'ont pas besoin d'utiliser la salle multimédia, pour moi, les cours de langues anciennes sont vraiment un lieu privilégié de la pratique informatique. Dans le projet que tu décris, mais également dans des travaux plus traditionnels d'exposés, il est possible de former les élèves à une bonne maîtrise de ces outils. dans la phase de recherche d'abord. On peut leur apprendre à utiliser de manière raisonnée un moteur de recherche, choisir des mots-clés adaptés, sélectionner des adresses pertinentes et séparer le bon grain de livret des sites Internet. Ils apprennent à utiliser le réseau également pour mutualiser leurs documents, prises de notes et iconographies. En troisième, dans la création du support de l'exposé, je leur impose par exemple le PowerPoint, avec pour tout texte, le titre, le sommaire de leur exposé et les titres des différentes diapositives. Ils apprennent ainsi à manipuler le traitement de texte et surtout à créer des documents mêlant texte et illustration. Quant à ce PowerPoint, ils le présentent ensuite à l'aide du TBI. Et là, mon objectif est double. Créer un document informatique complexe comme support, mais également construire des compétences d'oral, évaluées depuis quelques années d'ailleurs, lors de l'épreuve d'histoire des arts.
Oui, je suis tout à fait d'accord. S'il est un moyen de plaider la cause du latin au sein d'un collège, c'est vraiment grâce à l'épreuve d'histoire des arts. C'est d'ailleurs devenu l'un des premiers arguments que je fais valoir lorsque j'interviens devant les élèves de 6e pour les inciter à choisir l'option. Les élèves construisent progressivement les compétences dont ils auront besoin à l'issue de leur scolarité au collège. Et il est d'autant plus facile de le faire que nous avons la chance de les suivre pendant 3 ans. Car pour en arriver à ce que tu proposes, Anne, il faut penser à une progression de la construction de ces compétences d'oral. Pour ma part, je propose des exposés courts de mythologie en 5e, qui sont l'occasion de travailler la diction, la posture, ainsi que la clarté d'un récit. Et on peut ajouter aussi la sélection de mots-clés créés au tableau. En 4e, on peut commencer à exiger la présentation claire d'un tableau, néoclassique par exemple, sur un sujet d'histoire. Enfin, l'année de 3e est l'occasion de travailler les compétences de synthèse, à l'aide d'ensembles documentaires plus complexes. Cette année, travaillant sur le personnage de Cléopâtre, j'ai amené mes élèves à construire un cheminement personnel à partir d'un texte de Pline l'Ancien sur l'anecdote de la perle, de la citation célèbre de Pascal, d'un extrait de Cléopâtre de Mankiewicz et d'une sélection d'œuvres picturales représentant la reine d'Égypte. Et la présentation au TBI précédemment évoquée mobilise un autre aspect du travail des compétences informatiques.
Mais les TIS ne sont pas utiles en latin que pour la recherche documentaire ou la mise en forme et la présentation d'exposés. Il existe également des sites très intéressants qui permettent aux élèves de manipuler les faits de langue, soit en classe, soit même en entraînement à la maison. Et il existe aussi des logiciels gratuits, très simples, qui peuvent être utilisés avec eux pour travailler la langue. Un exemple, j'aborde le travail de la langue grâce au logiciel Hot Potatoes, qui permet de créer des exercices interactifs de type QCM, mais également mots croisés, textes à trous et mots à relier. C'est un logiciel très intuitif, ce qui fait que je ne fabrique aucun exercice pour les élèves, mais je fais fabriquer les exercices aux élèves. Ceci étant ensuite mis en ligne sur le site du collège pour qu'ils puissent s'entraîner, ainsi que leurs camarades des autres niveaux. Je travaille de cette manière avec mes classes de 4e et de 3e. Les élèves ont à inventer l'exercice et le corriger, mais également à rédiger la consigne. Ils travaillent ainsi les faits de langue latine, en vocabulaire, en grammaire, mais également la maîtrise de la langue française dans cette dernière étape de conception de consigne. Et ces créations d'exercices peuvent servir dans la phase d'appropriation de la notion, mais également en tant qu'évaluation de la maîtrise de ces points de langue.
Maîtriser les outils de la langue, c'est bien. Mais s'approprier le discours, c'est encore mieux. Peut-être que Thierry peut nous éclairer à ce propos en nous montrant comment des pratiques interdisciplinaires favorisent l'acquisition de ces compétences complexes.
En lien avec mon collègue de français, nous avons monté des projets autour de l'art oratoire. Les latinistes enrichissant le contenu du cours de français par leur connaissance de passage de la première catilinaire de Cicéron. L'étude d'un discours de Malraux, par exemple, et celle d'un extrait de Cicéron s'enrichissent dès lors mutuellement. On peut imaginer associer l'anglais à une telle démarche, avec l'analyse d'un passage en langue originale du discours « I have a dream » de Martin Luther King. Le programme d'histoire de 3e offre également plus de points de rencontre qu'on ne pourrait le penser. Aborder l'urbanisme sous Auguste avec des élèves qui ont travaillé dans cette optique, le projet architectural nazi Germania, ou encore l'histoire des Jeux Olympiques antiques, à la lumière de la vision qu'en a donnée Leni Riefenstahl, tous ces projets construisent une continuité entre les heures de cours, permettent aux élèves de réinvestir des connaissances et les rendent plus attentifs, mais surtout, ils leur donnent un regard différent sur les heures de latin. En effet, loin d'être marginal, l'apprentissage du latin devient donc, pour les élèves qui ont choisi l'option, mais plus largement pour tous les élèves qui entendent parler de latin même s'ils n'en font pas. Donc cet apprentissage devient le pivot d'une culture plus vaste, un point de rencontre de multiples domaines disciplinaires.
Ces liens entre latin et français, et latin et l'histoire que tu évoques, vont toujours de soi dans les établissements. Mais il ne faut pas négliger tous les points de convergence également entre le latin et les disciplines scientifiques. Je travaille souvent avec mes collègues de mathématiques. Une année, nous avons rédigé ensemble, et fait rédiger aux élèves, un livre dont vous êtes le héros. Avec une chasse au trésor à l'époque de Néron, parsemée d'énigmes, toutes mathématiques. Une autre année, ça a été la réalisation par les élèves de maquettes des principaux monuments romains. Donc en latin, ils ont fait tout le travail de recherche documentaire sur les fonctions des monuments, leurs dimensions. Et en mathématiques, ils ont dû inventer l'échelle, les patrons qui leur ont permis la construction de ces maquettes.
Pour rebondir sur ce lien entre le latin et les sciences, j'anime chaque année un atelier cinéma avec un collègue de technologie. C'est un atelier destiné à des élèves de 4e et 3e dont le but est d'aborder l'histoire, les techniques du cinéma, à travers l'étude d'un genre. L'année dernière, le genre abordé était le film noir, le suspense, et on avait étudié des extraits de films d'Alfred Hitchcock. Donc, a priori, aucun rapport avec le latin ou la mythologie. Au moment de réfléchir à l'écriture du scénario, les élèves de l'atelier ont proposé de travailler sur une adaptation du mythe d'Orphée Eurydice. Moi, j'étais très heureux, parce que c'était la preuve pour moi que la mythologie peut faire partie du présent et du quotidien des élèves, qu'elle peut déterminer leur choix artistique, nourrir leur imaginaire. Mon travail s'oriente toujours dans ce sens, d'ailleurs. Montrer que la culture antique est encore bien vivante, qu'elle influence notre monde d'aujourd'hui, notre manière de penser, notre langage, l'art.
De l'art ? J'adore ! Mais voilà qui peut sembler très ambitieux, en particulier avec des jeunes collégiens. Précisément, quel lien peut-on établir avec les arts ?
Par la mythologie. C'est un prisme essentiel pour aborder l'histoire des arts. L'étude d'un mythe s'accompagne toujours de l'étude d'œuvres artistiques prises à des époques différentes. Tout ceci en lien évidemment avec la compétence 5 du LPC. Il s'agit d'initier les élèves au mouvement artistique, de leur donner des repères historiques, de développer leur curiosité, leur regard. Presque chaque année, ainsi, j'organise un voyage en Italie. Mon but est évidemment de faire visiter aux élèves les grands sites archéologiques en lien avec l'histoire de Rome, mais aussi des musées où ils pourront utiliser leurs connaissances mythologiques et les réinvestir. Il y a 2 ans, par exemple, dans le château de Fontanellato, près de Parme, les élèves ont pu admirer des fresques du Parmigianino qui représentent l'histoire d'Actéon, dont on avait étudié la version d'Ovide dans les Métamorphoses. La même année, à Mantoue, dans le Palazzo Te, les élèves ont vu la chambre des géants qui représente de manière assez frappante une scène de la gigantomachie que nous avions aussi étudiée en classe. Cette année, à Venise, nous visiterons la Carezzonico, qui est un palais baroque, où nous étudierons des fresques mythologiques, et nous verrons comment la mythologie devient un objet de propagande pour célébrer la grandeur d'une famille vénitienne. Le palais des Doges aussi est l'occasion de voir des tableaux où Neptune n'est plus qu'un dieu soumis à la Grande Venise. Ainsi, les élèves comprennent que la mythologie est un matériau sans cesse repris par les artistes à des fins esthétiques ou politiques. La musique aussi peut jouer un rôle de premier ordre. L'an dernier, j'ai impliqué mes latinistes de 3e dans un projet qui s'intitulait Viva l'Opéra, en lien avec l'Opéra de Tours. L'Opéra Tour propose à des collégiens de découvrir de près le grand théâtre de la ville, d'assister à des répétitions, à la générale, de rencontrer des artistes. Moi, je voulais travailler sur une œuvre qui, au premier abord, n'est rien de commun avec le cours de latin. J'avais donc choisi Macbeth de Verdi. Notre travail s'est d'abord concentré sur le thème de la tragédie. On a étudié ce thème dans la mythologie, avec un centrage sur les Atrides. Puis on a étudié de près l'opéra de Strauss, Electra, et 2 mises en scène différentes de cet opéra. Enfin, le 3e temps du travail concernait Shakespeare et l'influence de la mythologie dans ses œuvres en général, puis le thème du destin dans ses tragédies. Enfin, les élèves ont comparé la pièce de Shakespeare avec le livret de l'opéra, puis je leur ai demandé de se mettre en groupe et d'en concevoir les décors. La consigne était de faire de vrais choix de scénographie, de faire sentir par le décor la présence du tragique et du poids de la fatalité. Ils devaient enfin justifier leur choix en écrivant un texte de présentation. Pour finir, ils ont assisté à la générale, à l'opéra de Tours, et ont pu comparer leurs propositions scénographiques avec les choix très particuliers du metteur en scène. Leurs dessins ont été exposés ensuite au grand théâtre. Dans ce projet, la mythologie est donc devenue pour eux un matériau vivant qui impliquait à la fois l'histoire, la mythologie, l'art lyrique, l'art de la mise en scène et les arts plastiques.
Eh oui, tout cela est vivant. Et c'est cela que je retiens de votre échange à tous trois. Edgar Morin reproche souvent à l'enseignement d'être sclérosé, car compartimenté. Mais quand je vous écoute, je constate que cette critique est pour le moins excessive, car c'est clairement votre ambition de lier les savoirs et les compétences afin de donner à chacun de vos élèves l'opportunité de se constituer une culture riche et diversifiée.